Vous écoutez RTL.
RTL, il est 9h01.
RTL Matin.
Laissez-vous tenter.
Avec Yves Calvi.
Le thriller Get Out, film phénomène aux États-Unis, arrive aujourd'hui dans nos salles, également à l'affiche En amont du fleuve avec Olivier Gourmet et Sergi Lopez. Une jolie surprise, nous dira Stéphane Boutsov. Nous vous emmènerons avec Laurent Marsic dans les coulisses du débat de l'entre-deux-tours de l'élection présidentielle. Isabelle Morini-Bosque, de son côté, nous proposera une soirée télé alternative. Nous retrouverons nos express du jour préparés par Charlotte Arrigoni. Et puis, dès demain, le Théâtre de la Villette à Paris proposera l'Iliade en 10 épisodes, joués chaque soir sur scène par des prisonniers du centre pénitentiaire de Meaux-Choconin. À suivre, le reportage d'Anaïs Bouissou qui a assisté aux répétitions.
RTL Matin.
Laissez-vous tenter.
Tout d'abord, je me tourne vers vous, Monique Younes, bonjour.
Bonjour.
Nous allons parler de Dalida ce matin, qui s'est suicidée il y a très exactement 30 ans, le 3 mai 1987. Le Palais Galliera à Paris expose ses plus belles tenues de scène et de ville.
Et les plus spectaculaires aussi, comme cette majestueuse cape à franges roses, sertie de strass en cristal et brodée de plumes, que Dalida portait sur un body bustier et un nœud papillon pour chanter. Nous sommes en 1980 au Palais des Sports. La période disco de Dalida, commencée en 1978 et son apogée, ses costumes de scène comme ses tenues pour les émissions de Maritier et Gilbert Carpentier sont imaginés par le costumier Michel Freinet. Des robes fendues, ultra sexy, ornées de strass, de paillettes, de plumes, de perles. Dalida n'hésite plus à porter des juste au corps qu'on appelle des léotards en mailles couleur chair, serties de perles d'argent. Elle exhibe son corps pour mieux se déhancher sur des airs de... Bref, Dalida, en parfaite meneuse de revue des années 80, ne demande plus qu'une seule chose...
Mais avant d'avoir un costumier pour ses shows, il faut rappeler que Dalida a fait appel à plusieurs grands couturiers, à commencer par Jacques Esterel.
C'est vrai, Jacques Esterel lui a réalisé les robes de ses débuts. En 1956, Dalida vient tout juste d'arriver de son Égypte natale. Elle est encore cette jeune fille brune, pulpeuse. Ses tenues de scène ressemblent à ses tenues de ville d'ailleurs. Des robes bustiers en forme de sablier, avec des décolletés pigeonnants, des tailles étranglées accentuant chez accentuant ses hanches rondes. Et comme Dalida adore montrer ses bras, elle a toujours privilégié des robes à bretelles ou des robes bustiers. Pour son premier bobino, c'est Jean Dessès qui lui a imaginé sa robe. Vous la verrez au Palais Galliera et vous entendrez Dalida s'en souvenir 25 ans plus tard.
Je portais une robe rouge, puis c'était la mode, vous savez, avec les petites tailles comme ça. Et nous avons pensé que ça pouvait aussi toucher les gens de remettre cette même robe-là pour fêter les 25 ans de carrière à l'Olympia. Avec les anciens succès, de remettre la robe, j'y rentre encore dedans. Il faut dire que je suis plus maigre maintenant, que c'est combien de moi.
Elle en était fière.
Hein. Bah oui, elle en était fière. Pierre Balmain lui a aussi réalisé plusieurs tenues.
Hein. Oui, elle le rencontre en 1960 et Balmain va petit à petit lui créer des robes qui mettent en avant la chanteuse plutôt que la pin-up, m'a expliqué Sandrine Teinturier, la commissaire de l'exposition Dalida.
À partir de 67 jusqu'en 1977, pendant 10 ans, le répertoire de Dalida change, hein, devient plus grave.
J'attendrai.
Il y a des problèmes dans sa vie, une tentative de suicide, le suicide de son amant, qui fait que voilà, elle se tourne vers les chansons d'auteur.
Avec le temps, avec le temps, va, tout s'en va,
Elle demande à Balmain de lui créer une robe longue, très épurée, très simple, ce que j'appelle un uniforme de scène. La robe participe d'une mise en scène particulière pour ses spectacles à l'Olympia. Il est seul sur scène, l'orchestre qui l'accompagne est caché derrière un rideau. Sa silhouette est découpée par une poursuite lumineuse sur elle. Le dispositif est assez minimal, la robe est minimale. Ses cheveux sont détachés, elle ne porte aucun bijou. L'allure est d'une pureté assez incroyable.
Le 23 novembre 1971, au lendemain de la première de Dalida à l'Olympia, les journaux titraient « Dalida a tué Mademoiselle Bambino ». Les journalistes la surnomment alors la Phèdre moderne. Dalida est devenue une héroïne tragique, ravagée par la passion et adulée par ses fans.
Alors qui choisissait ses robes et ses costumes, Monique ?
Ben elle-même, imaginez-vous. Dalida n'a jamais eu d'habilleuse attitrée. Elle aimait la mode, avait une conscience aiguë de ce qui lui allait ou pas. Si elle avait quelques couturiers fétiches, comme Azaro ou J3, elle n'était pas exclusive des grandes marques. On trouve chez elle des tenues signées Carven, Cardin, Yves Saint Laurent, mais on tombe aussi sur des marques éphémères ou carrément des vêtements sans marque qu'elle avait chinés ici ou là, comme des maillots de bain imprimés léopard qu'elle aurait acheté avec Sylvie Vartan aux États-Unis.
Alors, qu'est-ce qu'on apprend de nouveau sur Dalida aussi dans cette exposition ?
Alors, sur Dalida, pas grand-chose, mais on apprend beaucoup sur l'époque, la mode dont on jugera si Dalida l'a suivie ou précédée, si elle a fait évoluer le goût. Et je suis certaine que vous serez sensible aux citations de Dalida que le scénographe Robert Carsen a inscrit sur les murs du Palais Galliera. L'une d'entre elles dit « Je ne regrette pas ce que j'ai fait, mais ce que je n'ai pas fait ». Eh bien nous, on regrette un peu ce qu'elle a fait.
Merci beaucoup Monique Younes pour cette visite au musée Galliera et ses souvenirs égrenés des tenues de Dalida.
Il ne m'a pas parlé d'amour, il pensait que les mots d'amour sont dérisoires.
9h08 sur RTL, on se retrouve dans quelques instants pour parler notamment télévision, nos audiences de la veille avec Isabelle Morini-Bosque et Médiamétrie. Puis ensuite, nous irons au cinéma avec Stéphane Boutsock, nous sommes mercredi.
RTL Matin,
laissez-vous tenter.
Bonjour à tous, c'est Julien Courbet, votre DJ. Dans quelques instants, dans le 9h30-11h, une histoire de discothèque.
Je suis gérante d'une discothèque. Une société événementielle nous a proposé un spectacle avec des stars de la télé-réalité. On a versé 2700 euros et j'ai bien peur que c'est plutôt télépipo.
J'en profite pour demander à Yves Calvi de déplacer son kangou qui gêne la sortie, merci.
RTL Matin,
laissez-vous tenter.
Avec Yves Calvi.
Alors, qu'est-ce que nous avons regardé hier soir à la télévision, Isabelle Morini-Bosque ? Ça se passe avec Médiamétrie, tout ça.
Oui, hein, je vous l'ai dit hier, TF1 avait décidé d'adapter, enfin d'acheter L'Arme Fatale, adaptation de la célèbre série de films. Elle a bien fait, 6 400 000 personnes étaient sur la une, 24% du public. C'est un très joli score. C'est le score des meilleures séries françaises sur la une actuellement. Mais bon score aussi pour Le Syndrome de l'Écossais sur la 2, 3 800 000 téléspectateurs pour une pièce de théâtre et 15% du public. C'est bien. Et en troisième position, La Pâtisserie, ça c'est pour vous Yves, donc le meilleur pâtissier, les professionnels, Pierre Hermé et les autres ont été regardés par 2 700 000 fous de gâteaux, c'était pas de la tarte, ça a rassemblé 13% de gens, et c'est 81 000 téléspectateurs de plus que La Loi de Pauline qui fait un peu les frais du tout sur la 3 avec Sabou Bretman, c'était pourtant assez réussi. Côté TNT, c'est Énergie qui est en, Énergie 12 qui est en tête avec La Fureur de Vainque, 930 000 téléspectateurs, il n'y a pas mieux.
On se retrouve dans quelques instants pour les programmes de ce mercredi soir. Alors, nous allons passer maintenant en revue les sorties cinéma de ce 3 mai, dans un instant avec vous Stéphane Boutsock. Bonjour, mais tout de suite on commence par voir ce qui a marché et moins bien fonctionné depuis mercredi dernier dans nos salles.
Grâce au box-office de nos amis du site cbo.fr, comme prévu, Les Gardiens de la Galaxie numéro 2 a profité des vacances de printemps. 1 200 000 entrées depuis mercredi dernier. Démarrage difficile pour Django avec Reda Kateb autour des 150 000 spectateurs et puis les comédies, ça marche pas à chaque fois. Mm-hmm. Gros échec pour la comédie romantique Jour J, sous le seuil des 50 000 entrées. Là, c'est assez rude. Côté continuation, Fast and Furious 8 et Baby Boss ont passé le cap des 3,2 millions. Et puis, les Schtroumpfs ont également profité des vacances. On est à peu près au 1,5 million.
Les Schtroumpfs. Alors, généralement, les deux semaines qui précèdent le Festival de Cannes sont relativement calmes sur les écrans. Vous me le confirmez, Stéphane ?
Je vous le confirme.
Alors, il y a tout de même 12 nouveaux films à l'affiche. C'est bien notre numéro. Et vous commencez par le thriller Get Out.
Une jeune femme,
blanche, décide de présenter son fiancé fiancée noire à sa famille, laquelle n'est pas prévenue de la couleur de peau du jeune homme. C'est l'occasion d'un week-end dans une magnifique propriété perdue dans les bois. Au début, tout va bien, les parents de la fiancée sont de gentils démocrates, ils disent au fiancé qu'ils auraient bien voté Obama une troisième fois, mais petit à petit, Chris, le fiancé, remarque des petites choses qui vont pas tout à fait dans le bon sens, notamment deux domestiques noirs, tiens, qui ont l'air un petit peu à côté de leur pompe. Et quand vont débarquer les amis des parents pour une fête annuelle, on sait, on sent que ça va vraiment déraper. Get out, traduction Tire-toi, est un film de terreur comme j'en ai pas vu depuis longtemps. Une sorte de devine qui vient dîner, mais 50 ans pile après le très propre classique avec Sidney Poitier. Or, on peut pas dire que le sort des Noirs américains soit vraiment amélioré sur le fond en 50 ans. Get Out, c'est un suspense haletant, violent, dérangeant, dont l'humour noir, forcément, ponctue sans cesse un cauchemar. Je vous le promets, mené sans répit. Allez voir ce film, c'est un phénomène de l'autre côté de l'Atlantique. Ça devrait bien marcher chez nous aussi. Au rayon sensation forte également, on l'appelle Jig Robot de l'italien Gabriele Mainetti. Histoire d'un petit malfrat contaminé par des déchets radioactifs qui va développer des super pouvoirs et décider de les mettre au service du crime jusqu'au moment où il sauve une jeune fille des griffes d'un vrai méchant. On est entre le manga et les comic books style Marvel. C'est violent, c'est coloré, c'est rythmé. Ça mérite le coup d'œil, mais attention, c'est tout de même interdit au moins de 12 ans.
Autre film à découvrir en ce mercredi 3 mai, Tunnel. Du coréen Kim Seong-hoon.
Très bien. Film catastrophe, film de survie, film de suspense. Un commercial roule dans sa voiture quelque part en Corée du Sud. Il vient de conclure une belle commande au téléphone. Il interrompt sa conversation. Vous savez, la fameuse phrase « Je te rappelle après parce que rentre dans un tunnel ». Il passe donc sous la montagne. Il arrive au milieu du tunnel. Et ben voilà, l'édifice s'effondre brutalement, ensevelissant l'automobiliste sous des tonnes de rochers. Ben oui, c'est bête. Et de béton. Notre survivant parvient à joindre les secours et commence alors une course contre la montre pour le sortir de là. 35 jours vont passer entre espoir, désespoir, éboulement, découverte d'autres survivants, découragement des autorités et de la femme du disparu. Alors c'est très classique, mais c'est aussi très prenant avec un message bien senti aux chaînes d'infos en continu et à leur acharnement à mettre en scène le feuilleton du sauvetage. Ça s'appelle donc Tunnel. Autre film à découvrir en salle, Braquage à l'ancienne, dans lequel Morgan Freeman et Michael Caine n'ajouteront pas grand-chose à leur légende, si ce n'est un gentil cabotinage en compagnie d'un autre papy d'Hollywood qui s'appelle Alan Arkin. Le film raconte comment trois octogénaires qui ont vu leur retraite évaporée vont décider de cambrioler la banque qui les a ruinés. Rien de plus, rien de moins, ça se regarde avec plaisir, ça s'oublie sans souci.
On termine avec En amont du fleuve, qui est un film belge de Marion Hansen, avec un beau duo d'acteurs. Olivier Gourmet et Sergi Lopez.
J'avoue que je me suis laissé bercer par cette histoire de famille qui se regarde au fil des magnifiques paysages de la Croatie. C'est là, sur un fleuve serpentant entre la montagne et la mer, que deux demi-frères, réunis par un courrier de notaire, vont partir à la recherche d'un père qu'ils ont peu ou pas connu et qui a été retrouvé mort dans des circonstances assez étranges. Ces deux hommes ne se connaissaient pas avant. C'est sur un petit bateau qu'ils vont essayer de rattraper le temps perdu.
Et ta mère, elle t'a jamais parlé de lui ?
Non. Jamais. Quand j'essayais d'en parler, il avait les larmes aux yeux. Et il l'a abandonné juste avant ma naissance. Alors je posais plus de questions, j'avais peur de lui faire de la peine. Même avant de mourir, elle n'a pas voulu me dire son nom. Elle gardait des tas de cartes postales et des photos dans une boîte. Qui jetait un coup d'œil quand ça allait pas. Ça m'arrivait souvent. Il y avait une photo d'un jeune homme portant une sorte de béret. Et au dos, simplement une signature, juste un nom. Ivan. J'ai jamais su si c'était lui.
On ne lui ressemble pas. Ni toi, ni moi. Bon, on bouge ?
Le voyage, évidemment, va les rapprocher et leur faire découvrir qui était vraiment ce papa absent. Économie de mots, beauté de l'image, vraiment la Croatie sublime. Performance très sobre et très juste du tandem Gourmet-Lopez. En amont du fleuve, donc, c'est la jolie surprise de ce 3 mai au cinéma.
Merci beaucoup pour ces sorties. Cinéma, l'événement télévisé et politique de la soirée, nous y revenons. Point d'orgue d'une campagne présidentielle hors norme. Ce soir, Marine Le Pen et Emmanuel Macron débattront donc devant les caméras de TF1 et de France 2. Un exercice extrêmement codifié. Laurent Marsic, bonjour.
Bonjour.
Vous avez visité le plateau de ce fameux débat. À quoi ressemble-t-il ?
Eh bien, nous sommes à la Plaine Saint-Denis, dans le même studio que celui qui avait accueilli le débat de 2012 entre François Hollande et Nicolas Sarkozy. Même décor ou presque. Plateau circulaire, ton champagne avec une table carrée au milieu. 14 caméras, dont certaines cachées dans le décor, pour fixer cet instant.
Il y a eu des négociations entre les candidats, les chaînes de télévision, tout cela sous l'égide du Conseil supérieur de l'audiovisuel. Qu'est-ce qu'on négocie en fait ?
Tout. À commencer par le fait d'avoir une table et pas des pupitres, comme pendant la primaire. En même temps, raconte la patronne de l'info de TF1, Catherine Nel, ils avaient un souvenir un peu douloureux des débats debout pendant plus de 3 heures.
Bon, ils ont été un peu traumatisés par la position debout ou parfois par la position mal assise. Donc on va effectivement mettre à leur disposition des fauteuils, plusieurs sortes de fauteuils, comme ça ils choisiront eux-mêmes.
Alors, distance entre les candidats réglée à 2,50 m, ils ont face à eux des chronomètres, il y en a aussi par terre, il y en a aussi face à nous, pour quand on regardera la télévision. 12 thèmes abordés, avec aux manettes Christophe Jacubizine pour TF1 et Nathalie Saint-Cricq pour France 2, qui a demandé conseil à David Pujadas, qui a co-animé ce débat en 2012.
Globalement, les conseils, c'est d'avoir la tête bien structurée, mais pas d'apprendre tout jusqu'au codicille 22 du programme 33 et là, parce qu'au bout d'un moment, on est complètement paumé, on n'a aucune vision claire des choses. Deuxièmement, de bien ouvrir l'œil pendant les échanges. Et puis, globalement, qu'il fallait aussi s'attendre à une certaine fonction un peu en retrait. C'est pas comme une émission.
Et voici ce que souhaite Christophe Jacubizine de TF1.
Moi, ce que j'en attends, c'est une confrontation des personnalités quand même. Même si tout le débat, ce sera évidemment sur le fond, les thématiques, je pense que quand même ce qui va se dégager, c'est la capacité pour l'un ou pour l'autre d'habiter la fonction présidentielle, d'être à la hauteur de ce que les Français attendent.
Alors, quand on dit exercice codifié, ça l'est aussi évidemment pour le réalisateur Tristan Carnet.
Qui était avec vous tout à l'heure, avec une interrogation qui plane toujours ce matin. Il l'a dit, pourra-t-il ou non faire des plans de coupe ? Quand l'un parle, on voit l'autre qui écoute. Depuis 1981, ça ne se fait plus, c'est un regret pour Tristan Carnet.
On essaye de montrer aux téléspectateurs ce qu'ils voudraient voir s'il était en plateau. Je défends le fait qu'on puisse passer des plans d'écoute. En tout cas, je milite auprès des candidats pour pouvoir les obtenir. Ils sont intéressants pour moi s'ils racontent quelque chose de l'ordre de l'acquiescement ou d'une moue dubitative. C'est ça que je pense que les téléspectateurs veulent voir.
Vous savez pourquoi ça se fait plus ? 1974, débat Giscard-Mitterrand. Mitterrand attaque Giscard sur le chiffre du chômage. Giscard regarde une fiche, fait non de la tête, plan de coupe. Tout le discours de Mitterrand tombe à l'eau. Il y a un journaliste ensuite qui passe à la fin de l'émission, qui regarde l'affiche de Valéry Giscard d'Estaing. Il n'y avait rien marqué dessus. C'était un coup de com'. Réponse donc forcément dans la journée. Reste, comme le dit le président du CSA, Olivier Schramek, que ces débats sont des moments importants pour la mémoire collective.
Merci. Je pense que ce débat a acquis une valeur emblématique et symbolique de notre démocratie. Les sociologues politiques s'interrogent toujours sur les effets qu'ils peuvent avoir. Et pour la mémoire collective, l'expérience montre que c'est très important puisque l'on se remémore tel ou tel passage d'un débat et qu'on lui attribue, à tort ou à raison, une force persuasive.
Olivier Schramek, président du CSA. Merci beaucoup Laurent Marsic et je rappelle bien entendu la grande soirée animée par Marc-Olivier Faugiel avec Alain Duhamel dès 18h sur notre antenne et ce jusqu'à minuit. Et puis bien entendu à 21h pile, le débat en direct sur notre radio. On va passer maintenant au reste de la télévision avec vous Isabelle Morini-Bosse. Qu'y a-t-il ce soir ?
Eh bien, on va commencer par aller droit au but en parlant foot. Forcément, je ne voudrais surtout pas être répudié par les footeux. Or donc, signalons d'abord à 18h35 sur W9 la diffusion de la demi-finale aller de l'Europa League, le match Ajax-Lyon. Avec la présence de l'Ajax, ça devrait forcément être un match décapant très suivi évidemment par les ménagères. Pour la petite histoire, sachez que les Marseillais, habituel programme diffusé sur ce créneau horaire, sautent donc, vous savez, tous ces jeunes gens très huilés comme des frites Vivagel. Donc ils sautent donc, l'épisode inédit du jour sera reporté à demain. Alors au fait, pourquoi cet Ajax-Lyon est-il proposé aujourd'hui et non pas demain comme c'était initialement prévu ? Eh bien parce que le 4 mai étant fête nationale aux Pays-Bas, le gouvernement redoutait des débordements à caractère terroriste et a donc préféré avancer la rencontre de 24 heures, ça c'est fait. Et puis autre chose évidemment, la rencontre Monaco-Juventus, elle est retransmise sur Bein Sport, même si sur la 1 et sur la 2, qu'il va évidemment y avoir le plus de sport.
Alors côté programme, y a-t-il quelque chose à signaler ?
Oui, un très beau doc déjà diffusé dimanche après-midi sur TF1 est consacré à Grégory Lemarchal sur TMC. Cette fois, on suit le combat de ses parents et de 4 jeunes patients contre la mucoviscidose. Ensuite, on passe à 23h sur Série Club pour suivre le démarrage d'une nouvelle série télé inédite, l'adaptation du célèbre film L'Exorciste signé Friedkin est sorti en 73. Cette énième nouvelle version, c'est la deuxième bonne surprise de la semaine après L'Arme fatale hier sur TF1. La réalisation est aussi glaçante et nerveuse que la fille de cette habitante de Chicago possédée par le démon. Les personnages sont bien écrits, notamment celui du jeune père Thomas qui a du mal à croire aux malins. C'est toujours caviardé par la musique.
Je ne suis pas dérangée.
Non, j'ai jamais dit que vous étiez dérangée.
Il y a vraiment quelque chose dans ma maison. C'est un démon.
Angela, les démons n'existent pas. C'est une métaphore.
Non, pas que. Il va se reprocher du vieux curé Marcus, mis au banc de l'église pour avoir autrefois pratiqué l'exorcisme, qui n'est pas très catholique, mais le tandem va se révéler extrêmement efficace. Il y a moins d'effets spéciaux que dans le film, mais ça fait encore plus d'effets tout court. J'ai été scotché, et pourtant, moi, c'est un genre qui me fiche la trouille. J'avoue que j'ai toujours l'impression que je vais tenter le diable en regardant. Mais c'est à voir. Franchement, c'est une bonne surprise.
Ben voilà, et nous, on se retrouve dans quelques instants avec les Express de Charlotte Arrigoni.
Les Express LVT.
Bonjour Charlotte.
Bonjour Yves et bonjour à tous.
Bonjour Charlotte. Alors, que donne cette semaine, c'était magnifique, le palmarès des meilleures ventes de livres avec RTL et le magazine L'Express.
En tête du classement des romans, le trio d'abonnés au succès numéro 1, Guillaume Musso avec Un appartement à Paris, suivi du Tour du monde du roi Zibeline de Jean-Christophe Ruffin et du nouveau Marc Lévy, La dernière des Stanfield, qui se hisse à la 3e place dès sa semaine de parution.
Tous les invités de Bernard Lehu.
Voilà. Du côté des essais et documents, La vie secrète des arbres de l'Allemagne, Peter Voloben est toujours numéro 1 devant L'avenir en commun de Jean-Luc Mélenchon.
Palmarès complet, bien entendu, à consulter dans les colonnes de L'Express. Alors, après son succès dans La famille Bélier, qui a réuni plus de 7 500 000 téléspectateurs sur France 2, dimanche dernier, on découvre Louane dans le rôle d'une résistante.
Oui, on en a parlé ici dans Laissez-vous tenter. On retrouvera Louane le 14 juin prochain dans le film Nos Patriotes de Gabriel Le Baumin, l'histoire d'un jeune tirailleur sénégalais fait prisonnier des Allemands qui s'évade et se cache dans les Vosges. Louane va alors le prendre sous son aile. Un premier extrait de ce film vient d'être dévoilé.
Et lui ?
C'est mon traducteur.
Traducteur ?
Oui, pour parler avec les Africains. Ne cherchez pas, c'est comme ça. C'est les accords entre gouvernements.
Français ?
Je m'appelle Jean Rousseau. Je suis né à Orléans.
Nos Patriotes en salle le 14 juin prochain. Mis à part Louane, on retrouvera à l'affiche Marc Zinka, Alexandra Lamy ou encore Pierre Deladonchamp.
Le nouveau projet d'Oliver Stone s'annonce encore une fois très politique.
Oui, après Kennedy, Nixon, George W. Bush, le cinéaste nous propose un entretien exclusif avec Vladimir Poutine, le président russe. Les premières images de son documentaire ont été dévoilées. Il sera diffusé mi-juin en 4 parties sur la chaîne américaine Showtime. Oliver Stone a rencontré à 12 reprises le chef du Kremlin. Même si Poutine est le plus grand ennemi des États-Unis, dit Oliver Stone, nous devons essayer de le comprendre.
C'était un amoureux des bandes dessinées. JDM est décédé dimanche à l'âge de 81 ans.
L'auteur belge, pilier de la BD, a été l'assistant dès 1957 d'André Franquin. Les deux hommes ont notamment collaboré jusqu'en 1968 sur Gaston Lagaffe et sur Spirou et Fantasio, dont JDM réalisera les décors.
Et puis la suite du procès entre Michel Polnareff et son producteur.
Le chanteur réclame 300 000 euros à son producteur pour suivi pour diffamation devant le tribunal correctionnel de Marseille. L'affaire remonte à fin 2016 après l'annulation de 2 concerts de Polnareff. Son producteur et co-organisateur Gilbert Coulier avait laissé entendre que l'artiste avait simulé une maladie.
Charlotte, c'était donc les Express de Laissez-vous tenter. Dès demain jeudi et jusqu'au 14 mai, le théâtre de la Villette à Paris proposera l'Iliade en 10 épisodes interprétés chaque soir sur scène par des prisonniers du centre pénitentiaire de Mauch-au-Connin en Seine-et-Marne. Notre reporter Anaïs Bouissou a assisté aux répétitions.
Oui, derrière les murs épais de la prison, vous êtes immédiatement touché par un chant qui berce les pires horreurs d'une guerre s'éternisant entre Grecs et Troyens. Sur scène, les hommes apparaissent, le visage fermé, les yeux sombres. Ils sont même un peu effrayants, à mi-chemin entre des guerriers et des bagnards.
Je suis Ménélas, frère d'Agamemnon. J'ai vu ma ville détruite par l'invincible Héraclès.
Ne pas mourir, jamais.
Guerriers !
C'est ainsi Diomède qui se ruait sur moi pour me tuer et m'arracher mes armes. Par 3 fois, je le sentis qui arrivait.
En fait, il joue à faire peur et c'est tout l'intérêt. Le spectateur est perdu. Sur scène, il y a des comédiens professionnels et des prisonniers, mais on ne sait pas qui est qui. Laurent, il est comédien et moi, je l'avais pris pour un détenu.
Est-ce que lui, c'est un prisonnier ? Est-ce que lui, c'en est pas un ? C'est venir un peu casser les préjugés, les stéréotypes et arrêter de penser que les gens qui sont ici sont d'une autre planète. Finalement, quand on regarde cette troupe de comédiens, Ben, je pense qu'on ne se rend même pas compte de qui est qui.
Sur scène, ils seront 6 prisonniers, 3 anciens détenus et 6 professionnels.
Alors tout cela est évidemment assez troublant. Les détenus sont tous volontaires. Comment vivent-ils cette aventure ?
Ils ont appris, répété leurs textes durant des semaines en cellule. Et comme leurs personnages, ils ont l'impression d'avoir fait un sacré bout de chemin. Sid Ali est incarcéré depuis 4 ans.
Ça m'a apporté la prise de conscience. Ben voilà, on me dit on a fait des conneries. Maintenant, voir des intervenants de l'extérieur venir travailler avec nous... Nous donner autant d'importance, ben ça nous fait ouvrir les yeux, ça nous booste à aller vers l'avant.
Pour le metteur en scène aussi, Luca Giacomoni, c'est l'aboutissement de près de 2 ans de combat, sur scène et en coulisses.
C'est une aventure passionnante et éprouvante à la fois. Chaque jour, il y avait un problème. Un jour, c'est du retard. Un jour, il y a une partie de la prison qui est bloquée. Une simulation de la police en cas de mutinerie. Il y a un problème tout le temps.
Et il y est parvenu avec une mise en scène épurée, une lumière simple et pour seul accessoire, des chaises.
Alors, pardonnez-moi Anaïs, mais moi je me pose quand même la question. On est sûr qu'ils ne vont pas s'échapper, ces prisonniers ça peut être un film de Lelouch. Hein,
bon, pour votre information, il n'y aura pas de fourgon de police armée jusqu'aux dents à la sortie du théâtre. Il y aura certes des surveillants en civil, mais tous les détenus ont obtenu des permissions de sortie. Ces autorisations sont délivrées tous les jours en France pour aller voir de la famille, pour prendre rendez-vous avec un futur employeur, par exemple. Et le principe, c'est à chaque fois la confiance. Donc la pièce se déroulera comme un spectacle classique, payant 16€ pour les pleins tarifs. Et un conseil, dépêchez-vous de prendre vos billets car le premier soir est déjà complet.
Et ça se passe, je le rappelle, au Théâtre de la Villette à Paris. Merci Anaïs Bouissou. Dans quelques instants, on se dit au revoir et on accueille Julien Courbet.
RTL, première radio de France.
On a passé un excellent moment. Moi, j'ai un kangou à changer de place.
Hein, oui, parce que
j'avais bloqué ce matin toute l'équipe de Julien et faut que j'y aille, quoi. Bonjour, Julien.
Bonjour à vous, Yves Calvi.
Mais qu'est-ce qui se passe?
J'espère que vous avez pensé, avant la série des slows, à déplacer votre kangou.
Mais c'est vrai que souvent...
On est de la même génération. On a connu ces discothèques où le DJ, ça n'existe plus maintenant. Les jeunes ne savent plus ce que c'est que ces boîtes où le DJ avait de l'écho comme ça. Il faisait des annonces en permanence en demandant d'arrêter de fumer sur la piste, mais surtout de déplacer. Et moi, ça m'avait marqué une fois, je vous assure, il y a quelqu'un, c'était la mienne, et prié de déplacer sa voiture qui gêne la sortie du local à poubelle. Comme ça. Et je me suis dit, tiens, je vais la placer pour mon copain Yves Calvi.
Ben, j'ai la réponse parce que je me dis, mais d'où il sort toutes ces imbécilités? En fait, c'est votre vie.
Bon. Allez, je vous... Effectivement, ma vie est une vie d'imbécile.
Non, c'est pas ce que je vous ai dit du tout.
Belle vie de crétin. Mais d'ailleurs, que ce soit marqué sur ma pierre tombale, il a eu une belle vie de crétin. Et vous rajoutez même ce con dessous de ça. Ça sera la totale, ça fera rire les gens quand ils viennent. Vous savez, moi aussi, les gens rient, ça me va.
Bon, bah oui, je suis le premier, croyez-moi.
Allez, préparez-nous de belles élections et un beau débat ce soir.
Bonne émission.
Bonne émission. Merci.